Bien, je vous propose de commencer la conférence d'aujourd'hui. C'est un très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Hilda Kopman, qui est professeur à UCLA, à l'Université de Californie, Los Angeles, au département de linguistique, pour nous parler aujourd'hui de cette question qui est extrêmement centrale en sciences humaines, qui est celle de l'origine du langage et de la séparation au milieu de la structure des langues diverses du monde, de ce qui relève de l'universalité de la nature humaine et de ce qui relève de l'histoire. Hilda est née à Nijmegen, aux Pays-Bas. Elle a fait ses études à l'université d'Amsterdam, puis à Montréal. Elle a obtenu sa thèse à l'université de Tilburg. Elle a été successivement professeure à Montréal, puis à UCLA. Elle travaille depuis 25 ans, en ayant été par ailleurs visiting professeur, j'ai noté, à Venise, à Vienne et récemment à l'ENS. L'école normale supérieure, un petit peu plus loin sur la montagne. Elle a de très nombreux liens avec la France, elle est totalement bilingue, presque totalement bilingue. Je pense que Hilda présente l'intérêt tout à fait particulier d'être à la fois une linguiste de terrain et une linguiste théoricienne de la linguistique. Alors la linguistique de terrain, je pense que Hilda, tu la connais, formidablement bien, d'abord par tes études des Pidgin et des créoles au départ, et notamment en Haïti. Alors j'ai noté les langues Sranan et Samarakan, et puis ensuite des études sur le terrain en Afrique, notamment l'étude des langues Krou, Vata, Bété, Kagwe, Gwere, Badi. Je ne vais pas faire la liste complète parce qu'elle est considérable, puisqu'après tu es passé à des études des langues Kwa. Des études de nombreuses autres langues austronésiennes et polynésiennes, et bien entendu tu t'appuies également sur des exemples de langues plus familières pour nous tous, qui sont des langues européennes, coréennes, japonais, chinois, hongrois, entre autres. On peut mentionner que tu as fondé une école de linguistique au Bénin qui se réunit régulièrement et qui forme des linguistes sur le terrain pour participer à cette aventure de la description des langues. Par ailleurs, donc tu es également une théoricienne de l'étude des structures morphologiques et syntaxiques en particulier, et avec des contributions qui incluent la description de certaines dépendances à longue distance dans les phrases et l'étude de sources de variations interlangues dans ce domaine, avec notamment une contribution importante sur le plan de l'homogénéisation des principes de la morphologie et de la syntaxe, c'est-à-dire la formation des mots et la formation des phrases, avec des études dans ce domaine issues de tes travaux sur le Bambara et sur le Maasai. Je pense que tu vas nous en parler. Je voudrais juste mentionner que Hilda Kopman est l'auteur de plusieurs livres importants en anglais, en 84 sur la syntaxe des verbes, en 2000 sur la syntaxe des spécificateurs et des têtes, en 2000 à nouveau un autre livre co-auteur sur les complexes verbaux, et il y a un livre en gestation que j'ai eu la chance de lire un petit peu à l'avance, qui est une introduction à l'analyse syntaxique et à la théorie de la structure des langues. Donc je pense que nous avons aujourd'hui une grande spécialiste du courant de la linguistique théorique, qui recherche l'unicité des atomes du langage derrière la diversité des langues, mais aussi une très grande spécialiste de la diversité même des langues. Et je remercie beaucoup Hilda Kopman d'avoir accepté notre invitation au Collège de France aujourd'hui.
Je vous remercie de l'invitation. Alors, permettez-moi de commencer mon exposé aujourd'hui par un petit préambule. J'ai choisi de parler aujourd'hui en français. Alors, le français n'est pas ma langue maternelle, et c'est une langue que j'ai apprise après l'âge critique d'apprentissage. Alors, je ne l'utilise en général pas quand je parle de mon domaine, qui est la linguistique. Alors, je vous prie donc de m'excuser d'avance des fautes que je vais sans doute faire en grand nombre de français. En effet, je sais d'expérience que l'oreille humaine est extrêmement sensible aux moindres différences linguistiques. C'est une caractéristique de notre structure cognitive que d'être sensible à des différences qui jouent des rôles sociaux très importants, tels que l'origine des gens. Dans le cas présent, cette acuité auditive remarquable existe peut-être pour aider à déterminer si notre interlocuteur appartient à notre clan, ou notre tribu ou non. Est-ce que c'est un espion, un étranger, un ennemi ? On reconnaît immédiatement que quelqu'un parle une langue étrangère, français avec un accent étranger, un français d'une autre région, d'une autre génération, ou même d'un village voisin. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on reconnaît que immédiatement que quelqu'un parle, quel que soit l'idiome utilisé, on sait que quelqu'un parle une langue humaine. Donc, sous la grande diversité des langues, on estime aujourd'hui le nombre de langues à environ 6000, sans compter les multiples différences dialectales au sein d'une même langue, se cache donc un large degré d'uniformité sous-jacente. La part de chacune est difficile à déceler a priori. Mais pour le grammairien, comme je le suis, il est clair que l'arbre de la diversité cache la forêt. Ou pour inverser la métaphore, la forêt de la diversité, elle cache l'uniformité profonde des arbres. Donc je ne saurais mieux formuler la problématique de la diversité de langues par rapport au langage que Émile Benveniste, ancien professeur au Collège de France. Alors, je vous lis. Permettez-moi donc d'aborder mon sujet par une citation. Commençons par observer que la linguistique a un double objet. Elle est science du langage et science des langues. Cette distinction, qu'on ne fait pas toujours, est nécessaire. Le langage, faculté humaine, caractéristique universelle et immuable de l'homme, est autre chose que les langues, toujours particulières et variables, en lesquelles il se réalise. C'est des langues que s'occupe le linguiste, et la linguistique est d'abord la théorie des langues. Mais dans la perspective où nous nous plaçons, nous verrons que ces voies s'entrelacent souvent et finalement se confondent, car les problèmes infiniment divers des langues ont ceci en commun, qu'à un certain degré de généralité, ils mettent toujours en question le langage. Avant de commencer, et pour vous situer mon travail, mes contributions propres sur la diversité, mes propriétés propres sur les diversités, sont presque toujours basées sur des études de terrain portant sur des langues peu ou pas documentées. Malgré mon expérience des langues, le fait d'être confronté à de nouvelles langues sans connaissance préalable m'a souvent mis dans la situation agréable, toujours mis dans la situation agréable, de me faire surprendre, d'apprendre que combien nous prenons pour acquis sur le langage. Et m'a souvent fait approfondir, ou toujours fait approfondir, ma compréhension sur les langues, comme ma propre langue maternelle, dont je croyais pourtant bien comprendre la structure, puisque je la parle. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont ni linguistes, ni grammairiens, voici quelques, ou grammairiennes, ceux d'entre vous, et j'en vois plusieurs dans la salle, voici quelques préliminaires rapides qui devraient suffire à comprendre le reste de ma présentation. Je vais rentrer dans le cœur de ma présentation maintenant. Donc la langue est un ensemble de systèmes combinatoires interdépendants. Et on trouve pour chacun des atomes et des règles de formation de molécules. Les modules d'une grammaire d'une langue consistent à plusieurs... Il y a plusieurs modules d'une grammaire d'une langue. Il y a la phonologie qui s'occupe des sons. Il y a la morphologie et la syntaxe dont je vais vous parler aujourd'hui. La morphologie, elle s'occupe de la structure interne des mots. Et la syntaxe, elle s'occupe de comment les mots se forment, se combinent en phrases. La sémantique, le calcul du sens littéral. Et la pragmatique, le calcul du sens en contexte. Donc je vais vous parler de la morphologie et la syntaxe. Alors en morphologie, les atomes, on les appelle des morphèmes. Un mot complexe comme parlera, le verbe au futur en français, troisième personne, est composé de trois morphèmes. Il y a la racine, parler, qui donne c'est le noyau du mot. Il y a le morphème infinitif. Oups, ça, je ne vais pas faire ça. Le morphème de l'infinitif. Et ensuite, la troisième personne. On peut représenter ça comme un arbre, comme un petit arbre qui montre qu'il y a un premier constituant et l'infinitif se combine avec la racine et la troisième personne se combine avec ces bouts de structure-là. Pareil pour un mot comme nationalisation, on reconnaît qu'il y a le noyau du mot nation. On ajoute al, sa forme nationale, qui est un adjectif. On ajoute is, qui va devenir national, forme un verbe. Et on ajoute action pour former le mot nationalisation, le nom nationalisation. Donc, c'est des structures qu'on peut décrire en termes d'arbres binaires. La syntaxe, les atomes de la syntaxe et des mots. Donc, une phrase comme « je vais construire une maison », on reconnaît qu'il y a un syntagme nominal qui est formé, qui se combine avec le verbe « construire » dont il est l'objet direct. Donc, de nouveau, ça nous donne une structure en constituant. Cette structure est le complément du verbe « aller » et la phrase a le sujet, finalement, et on sait qu'on a affaire avec à une phrase complète. Quitte est une phrase déclarative qui a un sens particulier. Alors, le sujet dont je vais parler aujourd'hui, c'est les ordres possibles de ces atomes. Comment sont ordonnés ? Donc, je vais parler et des ordres des mots, des ordres des mots en syntaxe et l'ordre des morphèmes en morphologie. Et on va parler de ces ordres qu'on trouve dans les langues différentes. On va parler des ordres attestés. Donc, si nous regardons la typologie des langues humaines, quels ordres est-ce qu'on trouve ? Et on va aussi s'occuper de la question, quels ordres on ne trouve pas ? Est-ce qu'il y a des patrons qui sont exclus ? Est-ce qu'il y a des ordres impossibles ? On va en général s'occuper de l'ordre de combinaison de trois mots ou de trois morphèmes. Donc, ça veut dire que quand on combine trois éléments, il y a six ordres possibles. Donc, les langues diffèrent dans l'ordre des mots possibles, ce qui est en syntaxe, et l'ordre des morphèmes en morphologie. Je vous ai déjà dit que je vais documenter des combinaisons attestées et non attestées. Je vais faire d'abord la syntaxe, et ensuite je vais parler de documentation des morphèmes à l'intérieur des mots, basés principalement sur des langues d'Afrique. On va trouver une surprise, on va trouver qu'il y a des limites sur le système. Certains ordres ne se trouvent pas, elles sont impossibles. Donc ça va amener à la question pourquoi. Quatrièmement, je vais vous ramener à un sujet beaucoup plus proche. C'est-à-dire, parler de l'étude des langues particulières, en particulier des dialectes du néerlandais, qui révèlent qu'il existe des restrictions supplémentaires concernant la concurrence des ordres permis en principe. C'est un rapport de recherche en cours. Alors, je vais faire quatre points. Le premier point, c'est que l'existence de restrictions systématiques démontre l'existence d'un système combinatoire pour la syntaxe qui est unique et contraint. Deuxième point, la recherche d'explication de l'existence de ces restrictions amène à postuler un certain type d'algorithme combinatoire, et je n'aurai pas le temps de discuter ce point ici. Troisième point, les restrictions sur la combinatoire syntaxique et la combinatoire morphologique, elles sont identiques. Ceci suggère qu'il n'existe qu'un seul moteur combinatoire commun à ces deux modules. Quatrième point, toutes les combinaisons possibles en principe ne sont pas permises dans une langue donnée et il existe des relations d'implication entre certains ordres. Donc on cherche des corrélations. Des propriétés superficiellement diverses sont systématiquement corrélées. Le premier cas d'étude qui va jouer un rôle à travers mon exposé, c'est l'ordre qu'on trouve dans les complexes verbaux. Qu'est-ce que c'est des complexes verbaux ? Des complexes verbaux, c'est des séquences de verbes d'auxiliaires qu'on trouve dans un exemple ici, qui est un exemple du hollandais, avec la traduction littérale, la traduction en français. Donc, ik denk dat Jan huis zal willen bouwen. On voit en rouge ici trois verbes qui se suivent et qui ont l'air de faire un petit sous-ensemble. En français, on voit qu'on va dire « je pense que Jean va vouloir construire une maison », qui veut dire exactement la même chose que les mots en hollandais. Et ils sont ordonnés de la même façon. Okay, donc, c'est facile. On a l'ordre français, en hollandais et en... en français. J'ai écrit sur ce sujet avec ma collègue de UCLA à ce moment-là, elle est maintenant à NYU, un livre sur les verbes complexes qui regarde les possibilités d'ordre de ces éléments-là dans trois langues, le hongrois, le hollandais et l'allemand. Et on regarde les permutations qui sont possibles et on a proposé une analyse uniforme qui rend compte des patrons attestés et non attestés dans les trois langues. Okay? Donc, ça, c'est un premier. Donc, avant de vous parler de plus, c'est-à-dire si c'était comme le français et le hollandais, ils étaient pareils, si toutes les langues du monde étaient pareilles, bon, ça aurait été facile. Mais il y a toutes sortes d'ordres qu'on trouve et d'autres ordres qu'on ne trouve pas dans les langues. Et même à l'intérieur d'une langue ou d'un locuteur. Donc, il y a la variabilité dans tous les niveaux. Donc, comment parler de l'ordre de façon cohérente dans différentes langues? Donc, il faut qu'on soit capable d'identifier les unités qui se trouvent dans une langue particulière. Okay, donc, il faut qu'on puisse découper le signal. Il faut identifier ces unités avec les unités correspondantes dans une autre langue. C'est-à-dire, si on compare deux langues, il faut avoir un vocabulaire qui nous permet de comparer les deux langues. Un cas simple, c'est une traduction directe, comme la traduction qu'on a vue. Un cas plus complexe, c'est que des atomes de même modèle, c'est-à-dire syntaxe ou morphologie, donc, il y a une langue qui utilise une morpheme pour une relation que d'une autre langue utilise un mot. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont des relations de portée sémantique identiques. Okay. Alors, la correspondance entre atomes est souvent possible de façon très directe. Donc, je vous explique un premier exemple qui est basé sur le Vata, une langue crou qui est parlée en Côte d'Ivoire. Donc, on voit ici deux exemples. Les deux exemples, le premier exemple veut dire « je construis une maison ». Le deuxième exemple, ça veut dire « tu construis une maison ». La première était déclarative, la deuxième était question. La première ligne, c'est le Vata. Donc, on peut la transcrire, comme on transcrit toutes les langues. Donc, on va dire « je construis une maison ». Et ici, nous remarquons qu'il y a des diacritiques sur les segments. Et ces diacritiques réfèrent à la hauteur à ton, à la hauteur de la voix. C'est une langue à ton. C'est une langue qui utilise les tons pour distinguer entre la première personne et la deuxième personne. Donc, une question, est-ce que tu construis une maison? Une strasse. On voit que la différence entre la première et la deuxième personne, c'est le même segment, sauf il y a un ton différent. Donc, c'est mais on voit aussi qu'en français et en Vata, on voit que la première personne a une distribution particulière et on peut parler de l'atome, ça veut dire que ça réfère à la première personne dans les deux langues et deuxième personne dans les deux langues, donc il y a une correspondance. Non seulement dans le sens, mais aussi dans la position dans laquelle la distribution de ces éléments, à savoir, ça commence la phrase, c'est « ob ». À la périphérie gauche d'une phrase déclarative. Deuxième point, c'est qu'on voit quand on regarde, on compare la question, on voit qu'en Vata, il y a un particule de façon de question qui doit être là pour indiquer que c'est une question. Mais nous voyons qu'en français, il n'y a pas une particule, il y a juste une intonation. C'est-à-dire, il y a des tons en français qui sont utilisés pour faire la distinction entre une déclarative et une différence grammaticale. Alors, ce qu'on voit qu'en français, il y a des tons qui jouent, on voit la même chose. C'est-à-dire, l'expression d'une catégorie est arbitraire. Ça peut être un ton, un segment, ou un geste, ou les sourcils froncés quand on voit les langues des signes. Mais la distribution, ça n'allait pas. C'est-à-dire que le fait que cette marqueur de question ou l'intonation de question se trouve à la fin de la phrase est une propriété qu'on retrouve dans les langues naturelles. C'est une propriété, les questions, ils se combinent avec des phrases, donc ils font nécessairement être à la périphérie de la phrase. Ok. Deuxième convention, il faut avoir une convention pour parler de l'ordre. Alors, le complexe verbal dont je vous parle, on va utiliser une convention pour décrire les faits, c'est-à-dire qu'on va numéroter les trois verbes, les trois éléments, et d'une façon à ce que va, ou le futur, ou leur traduction, dans des langues du monde, c'est un, donc c'est l'élément qui est le moins enchâssé. Deux, c'est son complément. Et trois, c'est le noyau. Okay, le noyau, c'est toujours le numéro le plus bas. Pour cette convention, elle va s'appliquer non seulement à des verbes, mais pour toutes sortes de catégories différentes, syntaxiques ou morphologiques. Donc, on a, par exemple, pour nationalisation, nous aurons l'ordre... OK, ça c'est 4, 3, 1, 2, 1. Donc, linéairement, l'ordre c'est 4, 3, 2, 1. OK? Donc, on va utiliser les nombres pour décrire l'ordre et la relation dans l'arbre. Pour des linguistes, une petite remarque en plus. Ce qui compte vraiment pour déterminer cet ordre-là, c'est la portée sémantique. Okay, so, sachant que 1 prend portée immédiate sur 2 et que 2 prend portée immédiate sur 3, quels sont les ordres possibles de 1, 2 et 3? Okay, ça, c'est une petite remarque pour les linguistes entre vous, parce que je simplifie légèrement. Donc, quelles sont les combinaisons qui sont attestées dans les complexes verbaux? Alors, dans le hollandais, on trouve qu'il y a d'autres ordres possibles. Le hollandais standard, OK. Et il est très ennuyant, il a juste 1, 2, 3. Okay. C'est comme le français, c'est très bien. Mais il y a toutes sortes d'autres ordres qu'on trouve dans les dialectes du hollandais, et certains de ces dialectes sont en voie de disparition. On trouve l'ordre 3, 2, 1, donc on voit Bauen, Willen, Zoll. On trouve l'ordre 3, 1, 2, donc Bauen, Zoll, Willen, ou en français construire, va vouloir. Donc c'est pour vous donner mal à la tête, c'est des ordres qui sont les ordres normaux de ces complexes verbaux qu'on trouve. Donc, on peut faire un inventaire des ordres qu'on trouve et des ordres qu'on ne trouve pas. Alors, des 6 possibilités, on en trouve 5 qui sont attestées. Alors, je vais utiliser 1 pour dire que c'est ajusté dans mon tableau ici. Il y en a 1 qui ne l'est pas. Okay? Ça, c'est le 0. On ne le trouve pas. Donc, c'est la question, la prochaine question. Oh, ça pourrait être un accident historique. Il y a un ordre qu'on ne trouve pas. Mais la question, c'est est-ce que c'est un accident ou non? Comment on est déterminé? Et comment, si ce n'est pas un accident, comment rendre compte de ce résultat sur les ordres? Comment on modélise ça? Alors, je vais vous montrer que ces résultats ne sont pas accidentels. On trouve les mêmes restrictions pour la séquence des verbes dans d'autres langues. Donc, mon livre dans 2000 portait sur le hongrais, le hollandais, le hongrois et l'allemand. On trouve ces 5 ordres, mais pas la 6e, okay, celui qui n'est pas attesté. On les trouve non seulement pour des séquences de 3 éléments, mais aussi pour des séquences plus grandes. Okay. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, okay, ce que la langue te permet à agglomérer. On le trouve dans d'autres domaines que celui des domaines verbaux, ce que je vais vous montrer, et on les trouve dans tous les domaines de syntaxe où cela a été étudié. Donc, c'est l'état actuel de nos connaissances. Alors, le premier exemple que je vais vous présenter là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'universel, qui va sous le nom de l'universel numéro 20 de Joseph Klingberg en 1963, proposé en 1963, où il s'agit de regarder l'ordre de 4 éléments dans le domaine nominal, le démonstratif adjectif, un démonstratif numéro adjectif et nom. Et on trouve en français deux ordres de ces éléments. Donc on trouve ces cinq tableaux magnifiques. Donc on trouve démonstratif, numéro, nom et adjectif. Donc c'est cet ordre-là. Mais on ne trouve pas l'ordre 5, ces tableaux magnifiques. Ça, c'est, on indique ça par une petite étoile. Ça, c'est un ordre qui n'est pas un ordre français. Ça n'appartient pas à la langue française. Alors, Greenberg, il propose un universel pour décrire ce qu'on trouve dans les langues du monde. Ce qu'on ne trouve pas, c'est l'universel numéro 20. Et c'est lit comme suite ainsi. En position prénominale, l'ordre est toujours démonstratif numéro adjectif, okay, donc suivi du nom. On va appeler ça l'ordre 1, 2, 3, 4. Mais en position nominale, il y a toutes sortes d'autres ordres. L'ordre est conforme soit à l'ordre prénominal, soit à l'ordre inverse. Et il a été prouvé que Greenberg, la généralisation n'était pas juste. Ils avaient plus d'ordre postnominal qu'ils avaient prévu. Donc, il y a énormément de travaux là-dessus. Donc, Guilherme Cinque, professeur de linguistique à Venise, a écrit un article en 2005 où il pose la question sur universel 20, c'est quelles sont les combinaisons possibles qu'on trouve et quelles sont les combinaisons qu'on ne trouve pas dans les langues du monde. Comme ça a été un inventaire qui a été fait sur beaucoup de langues, on a une vraie possibilité de faire un tableau là-dessus. Alors, ce qu'on trouve sur les 24 ordres possibles, c'est qu'il n'y en a que 14 qui sont attestés. Okay? Donc, peut-être il y en a 15 ou 16, c'est-à-dire on va peut-être trouver d'autres ordres, mais c'est clair aussi que les ordres sont restreints. Il y a certains ordres qu'on ne trouve pas. Donc, ici, vous voyez tout en noir, c'est les ordres qu'on trouve. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 3, blablabla, etc. Mais il y a des ordres qu'on ne trouve pas. Ils sont en rouge. Et dans ces ordres, nous retrouvons nos ordres de complexes verbales, 2, 1, 3. C'est-à-dire là, on a un ordre plus complexe, mais on trouve exactement la même restriction. Donc là, il y a deux domaines, les complexes verbaux, et les ordres dans le groupe nominal. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, d'autres endroits dans la syntaxe où on trouve ces restrictions? Eh oui, on trouve. Donc on trouve ces restrictions dans l'ordre des adjectifs, donc s'il y a une langue qui a plus d'un adjectif qui se peut combiner avec un nom, on trouve les mêmes phénomènes, donc « a nice red balloon », en anglais, ils sont ordonnés d'une façon particulière où l'adjectif de couleur est plus proche du nom que l'adjectif de qualité. Mais dans les ordres postnominales, on trouve que les ordres sont plus variables dans les langues qui ont des adjectifs postnominales. On trouve les mêmes restrictions d'ordre pour les adverbes, donc les adverbes préverbales ou préverbal et on a l'air de toujours se trouver dans un ordre bien précis qui n'a pas changé, changeable. Donc en français, si on dit il a probablement toujours bien dormi, il est difficile de dire il a probablement bien toujours dormi. C'est-à-dire toujours et bien, ils vont toujours dans un ordre particulier et rien à faire. Ça, c'est pas, on n'a pas de choix là-dedans vraiment. Il faut toujours faire attention. À faire attention au focus, c'est-à-dire c'est avoir des contextes qui sont neutres, dans lesquels il n'y a rien, il n'y a pas un élément qui est focalisé. On trouve les mêmes genres de restrictions dans les syntagmes prépositionnels en hollandais, préverbaux, postverbaux. Préverbaux sont dans un ordre particulier, postverbaux, ils sont dans l'ordre inverse, ou bien ils sont dans l'ordre comme le même ordre comme préverbal. Et je pense qu'il y a d'autres ordres aussi, que les linguistes disent, bon, non, ce n'est pas vraiment bon, mais je pense qu'ils sont tout à fait acceptables. Donc, on voit la même combinatoire arriver. On retrouve ça avec des syntaxes prépositionnels circonstanciels, les modes, l'expression de l'aspect, du temps, etc. Donc, je vais Je ne vais pas développer et vous montrer les ordres adjectifs et comment marchent les ordres adjectifs dans les langues que je connais. Mais je vais arriver à la première conclusion, c'est que quand on regarde dans des domaines de syntaxe différents, on voit qu'il y a l'existence des restrictions qui démontrent que l'existence qu'il y a des restrictions. Et ces restrictions démontrent l'existence d'un système combinatoire contraint d'un certain type. C'est la première conclusion. Ce n'est pas un accident, car les accidents ne se répètent pas. Donc, si les accidents, si c'est vrai pour un grand nombre de cas différents, dans des langues différentes, on réduit les chances que c'est un accident et on augmente les chances que ça a faire avec le système combinatoire. Deuxième point. Maintenant, nous allons comparer la syntaxe et la morphologie. Donc, le point que je vais faire, que c'est les restrictions sur la combinatoire syntaxique et la combinatoire morphologique, elles sont identiques. C'est-à-dire, on trouve les mêmes restrictions. Ceci suggère que la morphologie et la syntaxe, il y a un seul moteur combinatoire. Alors, je vais commencer avec l'ordre qu'on appelle l'ordre miroir, l'ordre 3, 2, 1. Et je vous donne un exemple du Wolof, qui sort de notre labo de Wolof à UCLA, où on a eu des étudiants et des locuteurs de Wolof qui ont travaillé énormément sur le Wolof. Donc, on voit ici un exemple où on a un mot complexe qui a le noyau préparé, et on a le verbe aller préparer, et on répète aller. Donc, nous avons un morphème ici qui veut dire de nouveau, et qui dit quelque chose qui répète le fait que le fait de partir était de nouveau, et pour aller, prend comme complément préparé. Donc on a l'ordre 1, 2, 3, les éléments, et quand on regarde l'ordre linéaire, on voit 3, 2, 1. Donc on lit de droite à gauche, okay, pour avoir le sens du mot et la sémantique du mot. Donc rappel, j'avais fait une simplification de la présentation, l'identité de ces morphèmes, où la relation de 1, 2 et 3, elle se fait sur la portée sémantique, okay, sur le sens qu'ont ces morphèmes-là. Donc ça, c'est l'ordre 1, 3, 2. Est-ce qu'on trouve l'ordre 1, 3, 2? On la trouve dans Zulu et dans les langues bantoues, en très, très général. Donc le problème des langues bantoues, et des langues comme le Wolof, j'ai oublié de vous dire, c'est une langue de l'Atlantique Ouest, parlée au Sénégal. Les problèmes des langues comme le Wolof et des langues comme les langues bantoues, c'est qu'ils n'ont pas juste trois éléments dans les verbes. Il y en a six ou sept, il y en a beaucoup. Donc c'est difficile de simplifier les cas pour l'exposition, de tenir juste trois éléments. Elles sont bien. Par ailleurs, ces langues-là, évidemment, parce qu'elles nous montrent la combinatoire, parce qu'on a beaucoup de morphèmes qui peuvent se combiner. Donc, l'exemple en Zulu, nous avons quelque chose qu'on appelle un complexe verbal, qui est 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 éléments là-dedans. Mais là-dedans, on trouve le noyau, chanté, et on trouve le noyau qui se combine avec ce qu'on appelle un applicatif, chanter pour. Et chanter pour, il peut être combiné avec le passé. On voit que l'applicatif qui est le numéro 2, donc d'abord le noyau est le numéro le plus bas, applicatif se combine avec chanter, donc ça fait 3, 2, et on ajoute passé, qui est à gauche de ça, c'est 1, 2, 3. Donc nous avons un ordre ici, 1, 3, 2. Okay, je me suis trompée. Donc, d'abord 3 et 2, et ensuite, on ajoute 1 à 3 et 2. Donc, ça nous donne un tableau sur les ordres de morphèmes. Il y a les ordres 3, 2, 1 qui sont extrêmement fréquents. Ils sont extrêmement fréquents dans les langues naturelles. Et il y a aussi les ordres 1, 3, 2. Donc, nous pouvons remplir nos cases du tableau. Ça donne ça. qu'on a bantou, on a le Maasai qui a des ordres de ce genre. Alors, est-ce qu'on trouve l'ordre 1, 2, 3? On la trouve dans le malgache, qui est une langue parlée à Madagascar, une langue austronésienne, et qui est aussi une morphologie verbale très grande. Donc, on la trouve dans un exemple ici. Nifanuratra, tarata, sirabe, sirakut. Donc, ici, on trouve le verbe, et le verbe, il est fait en petits morceaux ici. On trouve le noyau. Le noyau se combine à cet aspect, avec un marqueur de voix qui, que j'appellerai aujourd'hui la voix active, qui se combine avec un réciproque, l'un l'autre, et qui est mis au passé. Alors, quel ordre on a dans ce complexe verbal? Mais on sait que le premier élément qui combine avec le noyau, c'est la voix active, et donc on a une structure ici. Ensuite, on a la réciproque qui se combine avec ça, et le passé. Donc ça nous donne un ordre. 1, 2, 3, 4. Comme en français. Donc c'est l'ordre 1, 2, 3, 4. Nous enlevons le réciproque, et on a l'ordre qui est possible aussi. 1, 2, 3. Okay. Donc c'est un ordre qui est comme l'ordre français. Ce qu'on trouve dans la morphologie. Mais le malgache, c'est aussi une autre possibilité, c'est-à-dire on peut prendre ces verbes à l'actif et on peut ajouter une autre voix à ces ordres. Et on prend Anuratra et on ajoute ce qu'on appelle la voix circonstancielle et elle est là. Quand on fait ça, on sait que la voix circonstancielle se combine avec un verbe qui a la voix active. Et donc, on a une structure où ça, c'est l'élément 1, ça, c'est 2 et ça, c'est 3, c'est-à-dire 2, 3, 1. Donc, nous revenons à notre tableau. On a l'ordre 1, 2, 3 à tester, 1, 3, 2 à tester, 3, 2, 1 à tester, 2, 3, 1 à tester. Qu'en est-il de 3, 1, 2 et 2, 1, 3? Est-ce qu'on trouve ces ordres? À l'ordre 3, 1, 2, on la trouve dans les langues bantoues. Elles sont en alternance avec d'autres ordres. Donc, je vous donne un exemple de Chichewa. Au fond, je vais juste parler de ce deuxième exemple qui est un exemple où on a le verbe remuer, on a un causatif et on a un instrumental. Que veut dire le verbe qu'on a ici? Le verbe ici, ça veut dire on fait remuer quelqu'un avec un instrument, remuer avec un instrument. C'est-à-dire, on a une interprétation où remuer et instrumental se combinent et causatif est en dehors de cette combinaison. C'est-à-dire, on a un ordre où causatif c'est 1, instrumental c'est 2 et remuer c'est 3. Donc c'est remuer avec, utiliser un instrument pour remuer. C'est un constituant qu'on peut utiliser en soi. Oui. Donc là, ici, on voit qu'on a un ordre qui est 3, 1, 2. On trouve les mêmes ordres en Wolof et je vais passer des exemples ici. Et donc, ce qu'on trouve quand on fait l'inventaire de l'ordre en morphologie, on trouve qu'il y a de nouveau 5 ordres qui sont attestés et un 6e qui ne l'est pas, qu'on n'a pas trouvé. OK, donc ça nous amène à... quand on fait beaucoup de, on regarde beaucoup d'objets morphologiques, ça nous, on arrive à un tableau que j'ai donné ici. Et quand on compare avec la syntaxe, on voit qu'on a exactement le même patron. Donc, conclusion, les ordres possibles, alors, qu'est-ce qu'on observe? Les ordres possibles des morphèmes dans un mot correspondent aux ordres possibles des mots en syntaxe. Et ça suggère que c'est des reflets d'un système uniforme, okay, dans des composantes qu'on a l'air être très diverses, qu'il y a une uniformité là-dedans. Les restrictions sur la combinatoire syntaxique et la commentaire, donc la conclusion, c'est que comment interpréter ce résultat? Alors, les restrictions sur la combinatoire syntaxique et la combinatoire morphologique, elles sont identiques. Et ceci suggère qu'il n'existe qu'un seul moteur combinatoire. OK, donc on a... maintenant, on a... Qu'est-ce qu'on pense à ce moment? Pourquoi on a deux... C'est-à-dire, on pense qu'il y a deux composantes. Un composante qui s'occupe de la morphologie et un autre de la syntaxe. Okay. C'est quoi les prédictions respectives des modèles, disons, ce que j'appelle autonomes de la morphologie et des modèles uniques, morphologie et syntaxe? Ben, le modèle autonome de la morphologie, elle ne permet pas des constructions des mots morphologiques qui ont cette structure-là. Pourquoi? Parce que la morphologie, en fait, toujours, on amène deux choses et on amène une troisième, donc on ne peut jamais avoir des choses qui ont l'air de former une sous-structure comme ici. C'est impossible. Ça, c'est pas possible dans la morphologie. Donc, par contre, le modèle unique, il dit qu'il y a un même système combinatoire, donc on devrait trouver les mêmes restrictions et les mêmes possibilités, et on les trouve. OK, mais donc la question, c'est qu'il y a vraiment des différences réelles entre la syntaxe et la morphologie. La réponse ou la suggestion, c'est que ces différences, elles ne sont pas d'ordre combinatoire. Elles relèvent d'autres propriétés. Choix des atomes, possibilité de mémorisation des structures. Donc je vous renvoie, si vous intéressez à ce sujet, au cours qu'a fait Alec Marantz, qui est professeur à NYU maintenant, à Ealing en 2008. Les vidéos, elles sont accessibles aux diffusions du savoir. OK, troisième conclusion, donc. À laquelle je suis arrivée maintenant, soit il faut ajuster notre modèle. Ce n'est pas qu'il y a deux modèles distincts, il y a un modèle combinatoire qui fait la syntaxe et la morphologie. Quatrième point, est-ce que je peux demander combien de temps? OK. Quatrième point, toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles en principe, elles ne sont pas permises dans une langue donnée. Et il existe des relations d'implication entre certains ordres. Donc on est à la recherche de quelles sont les propriétés corrélées. Et qu'est-ce qu'on fait de la variabilité à l'intérieur d'une langue ou la variabilité à l'intérieur d'un individu dans ce domaine-là. Des propriétés superficiellement diverses sont systématiquement corrélées. Et ceci indique des contraintes fortes sur la structure de l'algorithme combinatoire. Alors, je vais vous parler de nouveau des complexes verbaux en hollandais. Et je vais vous parler d'une étude de la variabilité dans les variétés du hollandais qu'on trouve. Quand on regarde le territoire où l'hollandais est parlé, c'est-à-dire la Belgique et la Hollande, on trouve une grande, grande diversité. Et une grande diversité régionale et individuelle. Et il est important d'étudier cette diversité parce qu'elle peut nous apprendre des propriétés profondes sur l'uniformité du langage. Alors, je collabore avec une sociolinguiste et des linguistes au Meertens Institute à Amsterdam. Et avec des gens à NYU. L'idée, c'était de tester, de trouver des façons à tester des prédictions faites par le modèle qui peuvent informer la théorie du langage sur des données qui sont sur des données linguistiques et des locuteurs individuels. Où nous sommes à la recherche de comment c'est représenté à l'individu et comment les individus, les groupes d'individus sont corrélés. Alors, on a fait une récolte de données où on a des données de 1168 locuteurs distribués sur tout le territoire hollandais. où on a les données sociologiques, démographiques. On sait l'environnement linguistique dans lequel ils ont grandi. On sait l'environnement linguistique dans lequel ils sont présentement. On sait l'environnement linguistique, on sait leur lieu de résidence maintenant. Et on connaît le lieu d'origine des parents. Donc on a énormément de données qui sont importantes pour placer le langage d'un individu et la réalisation de la langue dans cet individu. Une analyse, enfin, et l'idée c'est de faire des analyses des locuteurs individuels. Et j'utilise un outil en développement qui s'appelle Linguistic Explorer or the Syntactic Structure of the World Languages, avec en collaboration avec Denis Shasta et Chris Kans de NYU. Alors, ce qu'on peut faire avec ce qu'on a fait, parce que ça fait très peu de temps, je vous parle de travaux très très récents. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on peut faire des analyses de regroupement, c'est-à-dire des analyses de cluster. On peut regarder les implications et les prédictions théoriques sur le nombre d'ordres qui devraient exister. C'est là-dessus que je vais parler. Donc, je vais vous dire aussi que c'est le questionnaire, il est sur des données linguistiques, il y a 68 phrases. Donc, il y a des données linguistiques dans tous les sens qu'on a à exploiter. Donc, il y a une mine de diversité dans laquelle qui va nous tenir occupés pour du temps à venir. Alors, cette étude de la variabilité, on revient avec nos 1, 2, 3 d'un complexe en hollandais. Donc, même chose, on regarde des complexes verbales qui sont faits que d'infinitifs. Okay. Donc, on voit ici un tableau où il y a des prédictions de la théorie, elles sont simplifiées, mais elles marchent comme ça. On a des locuteurs, enfin, on a le patron, les grammaires qui ont le patron 1, 2, 3, on voit qu'il n'y a aucune implication sur les autres les possibilités autres que ces patrons-là qu'on trouve. Donc, la ligne liste comme ça, c'est-à-dire 1, 2, 3, il y a juste une implication qui est faite, les gens ont 1, 2, 3, mais il n'y a aucun autre patron qui co-occur. 3, 2, 1, pareil. 1, 3, 2. Ah, si on a 1, 3, 2, il faut aussi que les locuteurs ont 1, 3, 2. 3, 2, 1, il faut aussi qu'il soit 1, 3, 2. Je ne peux pas vous donner le calcul qui est sous-jacent à ça, mais c'est la prédiction. Il y a une implication. Si un locuteur a ça, il doit avoir ça. Pareil, si un locuteur a 3, 1, 2, il doit avoir 3, 1, 2, bon, c'est ça. Mais est-ce qu'il doit aussi avoir 1, 3, 2, ou est-ce qu'il faut juste avoir 1, 2, 3, etc. Donc, les prédictions, elles sont qu'on trouvera des locuteurs qui ont juste des grammaires déterminées avec cet ordre-là, des grammaires où les locuteurs ont cet ordre-là, des grammaires où il faut avoir les deux, des grammaires où il faut avoir ces deux, et ça, c'est une prédiction que je fais personnellement. Il y a une prédiction différente d'une théorie différente qui fait qu'il y a deux patrons qui devraient être impliqués quand on a ce patron-là. Et le patron 2, 3, 1, il implique qu'il faut aussi accepter le patron 1, 2, 3. Alors, résultats préliminaires, elles sont très encourageantes. On trouve que, évidemment, 1, 2, 3, il y a énormément de gens sur les 1168 qui sont tous des locuteurs, qui se disent des locuteurs des dialectes néo-hollandais, qui ont juste ces grammaires-là. Il y a des locuteurs qui sont 3-2-1, c'est vrai, mais ils ont toujours aussi le hollandais standard. Donc, ils ont toujours les deux patrons qui coexistent, mais ils ont des patrons complètement 3-2-1. On trouve 1-3-2, la prédiction est faite, ça alterne, on trouve aussi que 1-3-2, ça veut dire que les gens ont aussi 3-2-1, les locuteurs individuels. 3-1-2, ça implique qu'il y a 1-2-3. Bon. 3-1-2, ça implique qu'il y a 1-2-3. Et ce qui est intéressant, c'est que ma prédiction, pour le moment, elle allait être vérifiée, mais je vais être prudente. Donc, je suis optimiste qu'il y aura un vrai résultat ici. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des données linguistiques pour décider des théories, des questions théoriques et faire des prédictions théoriques. Donc ça, c'est une autre chose que je voulais vous montrer, mais je vais faire ça très rapidement, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y a des implications, des relations implicationnelles. C'est-à-dire, si un locuteur accepte un certain patron, il devrait aussi accepter tous les autres patrons. Donc, je vais regarder ça pour les locuteurs qui ont des patrons 3, 2, 1. Et ce qu'on trouve, c'est que il y a 8 phrases indépendantes dans les 68 qui doivent aussi, pour lesquelles ils doivent avoir une réponse particulière. Et on trouve ces vrai pour 11 des 16 gens qui sont en principe, qui ont ce patron particulier. Donc, vous voyez que 16 gens de notre échantillon, c'est très peu, c'est un dialecte en danger. Okay? C'est un dialecte qui est en train de disparaître. Donc, on peut regarder où ils ont grandi. Et ce qu'on trouve, quand on regarde où ils ont grandi, je peux vous montrer dans la question, de période de questions, on trouve qu'ils sont dans les endroits, 7 de ces gens-là sont dans les endroits où on devrait les trouver. Les 4 autres, on ne sait pas. Peut-être un des parents était allemand, peut-être ils ont bougé beaucoup, on ne sait pas. Donc c'est une question à étudier plus. OK, la conclusion, ça m'amène à la conclusion. Bon, j'espère que vous avez remonté que l'étude de la diversité linguistique, à laquelle nous sommes si sensibles, nous permet d'identifier des universaux potentiels des langues humaines et donc leur unité ou leur uniformité sous-jacente. Alors, j'ai discuté 3 points. Le premier point, c'est qu'il y a l'existence de restrictions systématiques et ça démontre au singulier, l'existence d'un système combinatoire pour la syntaxe qui est unique et contraint. Il y a un deuxième point, la recherche d'explication de l'existence de ces restrictions amène à postuler un certain type d'algorithme combinatoire, et je n'ai pas discuté ce point ici. Les restrictions sur la combinatoire syntaxique et la combinatoire morphologique, ils ont l'air d'être identiques. OK ? Contre notre savoir. Ceci suggère qu'il n'existe qu'un seul moteur combinatoire et toutes les combinaisons possibles, en principe, ne sont pas permises dans une langue, dans une langue donnée. OK. Pour finir, je voudrais faire quelques remarques sociolinguistiques supplémentaires. Comme je vous l'ai décrit, on trouve énormément de variations linguistiques aux Pays-Bas et en Belgique. Et évidemment, cette situation n'est pas rare. On la trouve en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Angleterre et aux États-Unis, peu partout, dès qu'on regarde de près. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que la variation linguistique portant sur les complexes verbaux du hollandais, elle n'est pas perçue par les locuteurs. On est aveugle. Okay. On ne le voit pas. Non seulement on ne le voit pas, donc on peut utiliser, on peut demander la question, est-ce que c'est utilisé pour des fins sociales? C'est-à-dire, on peut imaginer qu'un groupe d'adolescents décide d'utiliser cet ordre pour démarquer leur groupe. Okay. Donc, ma collègue, sociolinguiste avec qui je travaille, à regarder cette question dans les données qui sont disponibles sur des corpus différents qu'elle a ramassés, et elle trouve qu'il n'y a rien. Ça ne sert à rien. Okay. On est aveugle. Là, c'est une question de variabilité qu'on ne peut rien faire avec. Donc, c'est une question très intéressante. Pour le moment, hein, c'est-à-dire on a cherché, peut-être on n'a pas cherché assez bien, mais on ne trouve pas les grandes propriétés qu'on trouve qui vont avec la variation phonologique et qu'on a modelée en sociolinguistique, par exemple, par la BOF. Donc, dans ce cas-là, il y a la diversité, mais elle est sous-estimée, on ne la voit pas. Et au fond, je pense que quand on regarde un pays comme la France, où la pression normative est déjà forte, ces points aveugles concernant la variation syntaxique peut conduire à penser que ça n'existe pas. Okay, ça, c'est un peu ce qu'on a toujours dit, il n'y a pas de variation syntaxique, il y a de la variation lexicale et la variation phonologique, mais la vraie variation syntaxique n'existe pas. Donc on voit que quand on voit la variation syntaxique qui a été documentée sur les Hollandais depuis 10 ans, elle est considérable. Donc on peut s'attendre à la même chose, que ce soit la même chose en France. Alors il y a en France des études extrêmement riches et détaillées des variations de vocabulaire de prononciation, mais rien de comparable et de très loin pour la variation syntaxique. Alors, ces variations, elles doivent exister dans toutes les régions et elles tendent à disparaître. C'est-à-dire, c'est des variations qui sont en danger. C'est-à-dire, comme les langues meurent, les dialectes meurent. Donc, il sera dommage que ces variations qui sont témoins de langues et des cultures menacées et qui doivent être étudiées. Et ce serait dommage qu'ils ne soient pas documentés et avantage avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'elles font partie du patrimoine culturel et aussi de notre patrimoine scientifique, okay, pour avancer la science. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie tout le monde qui a participé à ce projet. Vous pouvez lire. Je remercie Stan de m'avoir invité aujourd'hui.